France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Constantin Brancusi contre les États-Unis d'Amérique ou le procès de l'art moderne. Le 21 octobre 1927, s'ouvre à New York un procès exceptionnel. Il s'agit de déterminer si la sculpture « L'envol de l'oiseau » de l'artiste d'origine roumaine Constantin Brancusi est ou n'est pas une œuvre d'art et si son auteur est ou n'est pas un sculpteur professionnel. Car c'est une question de gros sous, encore une fois. Donc, si l'oiseau est une œuvre d'art conçue et réalisée par un artiste professionnel, elle n'est pas soumise aux droits de douane lors de son arrivée aux États-Unis. Dans le cas contraire, elle est considérée comme un objet manufacturé, donc taxé à 40%. Si vous voulez en savoir plus, adressez-vous à Donald Trump, il en connaît un rayon. Pas forcément sur l'art, mais sur les droits de douane. Pour la justice, il s'agit donc de déterminer ce qu'est l'art. Autrement dit, ce qui est beau ou admirable, et, c'est le plus important, susceptible de faire naître l'émotion. Lourde tâche donc pour le juge Waite, dont les conclusions décideront finalement de la libre circulation des œuvres d'art. Pourquoi ? Ménageons le suspense. Notre invité aujourd'hui, Arnaud Nebasch, auteur et illustrateur. Il a publié en 2023 chez Dargaud la bande dessinée Brancusi contre les États-Unis. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Odile Conseil, rédaction chez Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca de Nantes. Réalisation, Étienne Bertin et Guillaume Giraud.
Fabrice Drouel. Affaires Sensibles sur France Inter.
21 octobre 1927. Nous sommes à la Cour des douanes des États-Unis. Elle examine la plainte numéro 209-109-G qui oppose Brancusi aux douanes américaines. Cette plainte concerne un objet posé au centre des regards, là, sur la table. Il est tout l'objet du litige, la pièce à conviction numéro 1. Sur la facture de celui qui l'a acheté à Brancusi, figure sous le terme « oiseau ». C'est un objet élancé, très pur, qui pourrait évoquer aussi une hélice d'avion. Le voici décrit froidement comme il sied à la justice par le juge Waite qui préside l'Assemblée.
L'objet importé se présente comme un bronze d'environ 135 cm de haut, porté par un socle cylindrique de 15 cm de diamètre. Il est en cuivre ou bronze brillant, parfaitement poli, de forme symétrique. Il culmine avec une pointe selon une diagonale ascendante, de manière à lui conférer une arête vive. Il s'élargit ensuite vers le bas pour former un léger renflement au centre. À partir de là, il se rétrécit, puis s'élargit à nouveau pour former un pied conique, lequel repose sur le socle.
Pour l'émotion, on repassera. Reste que tous les regards sont tournés vers cet oiseau. Il y a là 6 avocats, 3 pour chacune des parties. Brancusi, lui, n'est pas là. Il témoignera quelques jours plus tard au consulat américain à Paris. Dans le public, on reconnaît quelques amis du sculpteur, dont le peintre et plasticien Marcel Duchamp, qui a mobilisé les témoins en sa faveur. Tout est en place, la pièce peut commencer. Attendons une minute tout de même. Peut-être y a-t-il une autre façon de décrire cet objet, une façon qui n'aurait pas le détachement d'une cour de justice, non, qui en parlerait avec le cœur, qui évoquerait la beauté de l'objet, que dis-je, de l'œuvre. Écoutons pour cela Jean Deloisy, producteur de l'émission Les Regardeurs sur France Culture.
L'oiseau, c'est-à-dire un long fuseau blanc tendu vers le ciel, s'appuie, pour prendre son élan, sur un petit cône légèrement penché vers l'avant, à partir duquel toute la forme, sans interruption, semble s'élever. Sa silhouette synthétise à la fois l'effort de l'ascension et déjà la sérénité du vol. Le galbe, légèrement convexe du ventre de l'animal, lui donne une plénitude organique et puissante. C'est la vie, c'est un corps que la faible courbe de son dos confirme, suffisamment irrégulière pour échapper à l'inerte, suffisamment tendue pour avoir l'énergie des muscles rassemblés pour sa montée. Le regard qui ne peut s'empêcher d'accompagner du bas vers le haut le corps de l'oiseau est retenu à la limite du ciel libre par l'interruption du bec, stylisé, simple méplat taillé en oblique et dont l'ouverture symbolisée signifie à la fois la lumière solaire et le champ irradiant.
s'interroger sur l'objet ou sur l'œuvre, selon les points de vue, il s'agit de se pencher sur son auteur. Ce monsieur Brancusi, qui est-il ? Est-il vraiment un artiste ? La Cour s'interroge. La réponse est pourtant simple et claire. Oui, Brancusi est un artiste, connu et reconnu par ses pairs, par les collectionneurs et par la presse, qui peut aussi avoir du goût. Né en Roumanie en 1876, formé aux Beaux-Arts de Bucarest, Brancusi arrive à Paris en 1905. Il est repéré par Rodin qui le prend dans son atelier, mais il quitte rapidement le maître pour tracer sa propre voie. Cette voie, elle passe par des sculptures toutes de pureté et de simplicité, qu'elles soient en pierre ou en bronze. La plus connue est le baiser, qu'on peut voir aujourd'hui au cimetière de Montparnasse, sur la tombe de Brancusi, précisément. Citons aussi la muse endormie ou encore l'oiseau dans l'espace, celui qui nous occupe aujourd'hui. Pour autant, Brancusi ne vit pas hors du monde. Il est sensible aux évolutions techniques. Témoin cette visite qu'il effectue au musée de l'aviation en 1912, en compagnie de ses amis Marcel Duchamp et Fernand Léger. La scène est ici jouée par deux acteurs, dans une fiction produite par France Inter en juin 2013.
Voilà une sculpture.
Qui ferait mieux que cette hélice ? Dis, tu peux faire ça, Brancusi ?
Si je peux faire ça ? Rien qui soit en dessous, en tout cas. La sculpture ne doit dorénavant pas être inférieure à cela.
En ce début du XXe siècle, Brancusi est donc un artiste célèbre. Ses œuvres sont exposées à Paris, à Londres et aussi à New York en 1913, à l'Exposition internationale d'art moderne. On peut même affirmer que c'est là que sa notoriété trouve son origine à partir de 1913-1914. Quelques années plus tard, la prestigieuse galerie new-yorkaise Brummer prévoit une nouvelle expo de Brancusi. Elle doit se tenir à la fin de l'année 1926 et partir ensuite à Chicago. Brancusi expédie outre-Atlantique une vingtaine de sculptures. Et c'est là que les ennuis commencent. Pour les agents des douanes américaines, ces choses ne sont pas des œuvres d'art, mais des marchandises manufacturées. L'artiste est donc redevable de 4 000 $ à l'administration américaine, soit 40% de la valeur du chargement, conformément à l'article 1704 du Tariff Act, adopté en 1926, soit aussi plus de 70 000 $ d'aujourd'hui. Alors de quelle nature furent les échanges avec les douaniers ? Une fiction diffusée par France Culture en 1996 relate ainsi le dialogue tendu. Outre le douanier en chef, on y entend Marcel Duchamp et un ami de Brancusi venu réceptionner les œuvres.
Il n'y a pas si longtemps, un sculpteur s'est mis à fabriquer des chaises et a tenté de les introduire dans notre pays en les faisant passer pour des œuvres d'art.
Il n'y a aucune comparaison possible. Tout ce qui naît des mains de Brancusi est œuvre d'art.
Nos experts ne sont pas de cet avis. Ni aucun des spécialistes auxquels nous sommes adressés. L'un d'eux a même déclaré au sujet de votre prétendu oiseau, « Si cela est une œuvre d'art, alors moi, je ne suis qu'un simple poseur de briques. »
Écoutez, cette affaire, monsieur l'inspecteur, risque de vous couvrir de ridicule. Je soutiens que l'oiseau dans l'espace est plus qu'une œuvre d'art. C'est un véritable chef-d'œuvre.
Avec vos critères, monsieur le douanier, vous fermez à jamais les portes de notre pays de liberté à la sculpture gothique ou égyptienne, à l'art africain ou chinois. Vous savez ce qu'est une statue gothique ?
Non, je n'ai pas à le savoir. Monsieur le critique, dites-moi, c'est quoi au juste ? Un critique d'art ? Et votre protégé, monsieur Brancusi, c'est qui ? Un artiste ? Prouvez-le. Et ce truc ? Un objet ? Un oiseau ? Dans l'espace ? Laissez-moi rire.
Heureusement, les amis et les admirateurs de Brancusi ont de l'entregent. Suite aux interventions de plusieurs personnalités proches du milieu artistique new-yorkais, un visa de transit est accordé au chargement, suspendant les droits de douane. Il est convenu que seules les œuvres vendues, celles qui resteront sur le territoire américain, seront taxées. Et justement, l'oiseau dans l'espace a été acquis par le photographe Edward Stecken. Les douanes lui réclament donc 40% de taxes sur la valeur de cet objet, soit 240 $. Mais ni Brancusi, ni aucun de ses amis ne peuvent accepter cette décision qui ferait jurisprudence. Alors, le sculpteur décide d'assigner l'État américain en justice. Brancusi, le demandeur, est représenté par 3 avocats. Ils ont été mis à sa disposition par la richissime Gertrude Vanderbilt Whitney, fondatrice du Whitney Museum et généreuse amie de l'art moderne. Les douanes, autrement dit les États-Unis, sont défendus également par 3 avocats. Première question et premier témoin. Donc, ce Brancusi est-il réellement un sculpteur ? Autrement dit, sa sculpture est-elle de l'art ou du cochon ? Ce 21 octobre 1927, les témoins produits par le plaignant défilent à la barre. Ils sont eux-mêmes artistes, collectionneurs, critiques d'art, rédacteurs en chef de revues spécialisées. Tous confirment le statut d'artiste et la grande réputation de Brancusi, la présence de ses œuvres dans des musées ou chez des collectionneurs éclairés. Les débats s'arrêtent sur un point en particulier. Cet objet-là, aussi beau, aussi travaillé soit-il, ne pourrait-il avoir été produit non par un artiste, mais par un ouvrier ? Sous-entendu, Brancusi ne serait-il pas au fond qu'un habile travailleur manuel, un artisan ? Un avocat des douanes interroge en ce sens le sculpteur Jacob Epstein.
Ainsi, si nous avions une barre en laiton, polie à la perfection, incurvée de façon plus ou moins symétrique et harmonieuse, ce serait une œuvre d'art ?
Ce pourrait être une œuvre d'art.
Qu'elle soit faite par un sculpteur ou par un ouvrier ?
Un ouvrier ne peut pas créer la beauté.
Vous voulez dire qu'un ouvrier de premier ordre, muni d'une lime et d'outils à polir, une fois coulée cette pièce à conviction numéro 1, serait incapable de la polir et d'arriver au même résultat ?
Il pourrait la polir, mais il ne pourrait la concevoir. Toute la question est là. Il ne peut concevoir ces lignes particulières qui lui confèrent cette beauté unique. C'est cela la différence entre un ouvrier et un artiste. Il ne conçoit pas comme le fait un artiste.
S'il était capable de créer, il cesserait d'être ouvrier pour devenir artiste ?
C'est exact. Il deviendrait artiste.
Bon, admettons que ce monsieur Brancusi soit un artiste. Mais cet oiseau-là, est-ce bien une œuvre originale ? S'interroge la cour. La question, évidemment, n'est pas innocente, puisque c'est une condition pour que l'objet puisse être qualifié d'œuvre d'art. Et précisément, pour les douanes qui réfléchissent essentiellement avec leur porte-monnaie, il ne s'agit pas d'un original, mais d'une pièce de série. Eh oui, puisque d'autres oiseaux ont été exposés à New York des années plus tôt. L'argument est tellement spécieux qu'il fait bondir Brancusi, qui s'en plaint dans une lettre écrite à son ami Marcel Duchamp, où il relate les débats.
C'est une grande injustice. L'erreur de la douane, c'est qu'on croit que tous les oiseaux que j'ai exposés à New York sont tous les mêmes, et que ce n'est que le titre qui diffère. Pour détruire cette croyance, il faudrait exposer publiquement le tout, ensemble. Ce n'est qu'alors qu'on verra l'erreur. On verra que c'est le développement d'un travail honnête pour atteindre un autre but que les séries manufacturées pour faire de l'argent.
Dans le cadre du procès, Brancusi lui-même est entendu au consulat général des États-Unis à Paris le 21 novembre 1927. Il affirme qu'il n'existe au monde aucun autre bronze pareil à celui-ci. « Le bronze que j'ai vendu est un bronze original », martèle-t-il. Le photographe Edward Stecken, témoin et désormais propriétaire de cet oiseau, confirme que l'objet en question a été longuement travaillé, limé, poli par l'artiste et qu'il n'a rien à voir avec l'objet sorti du moule après avoir été coulé. Il le dit à la barre, ici, dans la fiction diffusée sur France Inter en 2013.
Cet oiseau, sous sa forme actuelle, est l'aboutissement d'une série d'objets similaires auxquels M. Brancusi travaille depuis 20 ans. Pendant tout ce temps, il n'a cessé de les modifier. En changeant les formes et les lignes, M. Brancusi est arrivé à ce qu'il considère aujourd'hui...
Il est arrivé à ceci par étapes.
Oui, Monsieur le Président. En fait, je l'ai vu se faire. La première ébauche a été taillée dans le marbre. À partir de ce marbre, il a réalisé un moule en plâtre. Et à partir du moule, un bronze a été coulé. Lorsque le bronze est sorti de la fonderie, il ne présentait qu'une très vague ressemblance avec cette chose. Et c'est alors qu'avec des limes et des ciseaux, il a taillé et travaillé cette pièce de bronze.
Et c'est l'artiste qui a fait cela ?
Oui, l'artiste en personne.
Il ne s'agit pas d'une copie de quoi que ce soit ?
Non.
De fait, au vu des propos tenus par les six témoins de Brancusi, le juge Wyatt ne pourra qu'aller dans ce sens quand il rendra son jugement qui dit effectivement. Il n'existe pas de doute dans l'esprit de la cour que l'homme qui a produit l'objet importé est un sculpteur professionnel, ainsi que l'atteste sa réputation, ses œuvres et le jugement de ceux qui ont compétence en ce domaine. Nous estimons également qu'il s'agit d'une production originale. Voilà donc les deux premiers points réglés.
Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather. Just can't get my poor self together. I'm weary all away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on. All I have in life is gone. Stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time, keeps raining all the time. I walk around heavy-hearted and sad. Night comes around and I'm still feeling bad. Rain down, blinding every hope I had. This pittering, pattering, beating and splattering drives me mad. Love, 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 love. This misery is just too much for me. Can't go on. All I have in life is gone. Stormy weather, since my man and I ain't together, keeps raining all the time, keeps raining all the time.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Brancusi contre les États-Unis ou le procès de l'art moderne.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Peu à peu, au cours de ces quelques jours d'audience étalés sur 6 mois, les choses se précisent. La barre de laiton poli, pour reprendre la qualification de l'un des avocats des douanes, est une production originale, d'accord. Mais est-elle pour autant une œuvre d'art au regard de la loi ? Pour exempter les œuvres d'art des droits de douane, il a bien fallu les définir. Concernant la sculpture, un jugement de 1916 fait jurisprudence.
La sculpture, en tant qu'art, est cette discipline des beaux-arts qui consiste à tailler et à sculpter dans la pierre ou tout autre matériau massif, ou à modeler dans l'argile ou toute autre substance plastique, en vue d'une reproduction ultérieure par la fonte ou le moulage, des imitations d'objets naturels, particulièrement des formes humaines. Elle représente ces objets dans leurs proportions véritables, qu'il s'agisse de longueur, de largeur, d'épaisseur, ou seulement de longueur et de largeur.
Aïe, cette fois les choses se corsent. Car cet objet que Brancusi appelle oiseau, en quoi ressemble-t-il à un volatile? Il n'a pas de pattes, pas d'ailes, pas de bec, pas de plumes. Bref, aucun attribut usuellement associé à cet animal. Les témoins défilent et le jeu de questions-réponses avec le juge ou les avocats frôle l'absurde. Notamment quand le juge se demande gravement si l'œuvre ne ressemblerait pas à la quille d'un navire ou à un croissant de lune. Pourquoi pas une moissonneuse batteuse? Le sculpteur Epstein est à nouveau interrogé par un avocat des douanes. Pour montrer à la cour qu'une œuvre d'art, reconnue comme telle, peut ne pas être figurative, il exhibe une sculpture de faucon, une antiquité égyptienne vieille de 3000 ans. Alors le juge interroge. Et vous lui trouvez une similitude de forme avec ce que vous entendez par faucon? Oui, bien sûr. Un ornithologue pourrait ne pas trouver de ressemblance. Eh bien moi j'en trouve une avec un oiseau. Les plumes ne sont pas figurées, les pattes non plus. Alors les ailes et les pattes ne sont pas figurées et vous avez quand même l'impression que c'est un faucon. Mais oui, répond Epstein. Autrement dit, l'art a ses raisons que la justice ignore, manifestement. En réalité, deux questions se font en une. 1. Est-ce un oiseau? 2. Est-ce de l'art? Alors d'autres questions fusent vers les témoins de Brancusi et ça vaut le détour. En voici quelques-unes. S'il avait appelé poisson, vous y verriez un poisson? Si vous l'aperceviez dans la rue, vous ne songeriez pas à l'appeler oiseau, n'est-ce pas? Si vous le voyez dans une forêt, vous ne prendriez pas une photo. Cette pièce évoque-t-elle pour vous un lion ou tout autre animal? Et s'il l'avait intitulé « Animal en suspension », l'auriez-vous appelé « Animal en suspension » et s'il l'avait appelé « Tigre en vol », etc., etc. Le témoignage du photographe Edward Stecken, l'acheteur de l'œuvre de Brancusi, interrogé par le juge Waite, est à cet égard révélateur.
Monsieur Stecken, comment appelez-vous ceci?
J'utilise le même terme que le sculpteur, oiseau.
Voyez-vous une quelconque fonction utilitaire à cet objet?
Aucune.
Titre mis à part, dites-nous si ceci est une œuvre d'art et obéit à un principe esthétique sous-jacent, indépendamment du titre.
Oui, ses proportions sont harmonieuses. Cet objet me procure une émotion esthétique, le sentiment d'une grande beauté. Brancusi, de mon point de vue, a tenté d'exprimer quelque chose de beau. Cet oiseau me donne la sensation d'un vol rapide.
Pour les amis de Brancusi, l'exercice est délicat. D'un côté, ils aimeraient expliquer que l'art moderne s'est éloigné de la représentation réaliste, mais de l'autre, contester le principe du critère de ressemblance revient à remettre en cause le cadre juridique qui définit ce qu'est une sculpture. Parce que, pour la société, en cette fin des années 20, le figuratif reste encore la norme. Le public ne se retrouve pas forcément dans l'abstraction, le symbolisme ou l'impressionnisme, et certains milieux artistiques non plus, d'ailleurs. Confère ce jugement peu amène paru dans l'hebdomadaire des Art News le 23 mars 1926. Brancusi et son école ont tourné le dos aux représentations humaines, belles et soignées, pour adopter des formes qui, aux yeux de tout être sain d'esprit, passent pour vraiment primitives et répugnantes. Bon, et ce n'est pas tout. Les douanes produisent comme témoins deux sculpteurs qui vont peu ou prou tenir ce type de discours. Le premier s'appelle Robert Ingersoll Aitken. Cet artiste réputé, dont une œuvre brille au fronton de la Cour suprême des États-Unis, est un parfait représentant de l'académisme. Son témoignage commence ainsi.
Monsieur Aitken, depuis quand êtes-vous sculpteur?
30 ans.
Avez-vous des œuvres exposées en différents lieux?
Il y a des œuvres de moi d'une côte à l'autre des États-Unis, dans des musées, des parcs et sur des places.
J'attire votre attention sur la pièce à conviction numéro 1. Et vous prie de nous dire, en vous fondant sur votre formation et votre expérience, si, à votre avis, il s'agit d'une sculpture ou d'une œuvre d'art.
Je considère qu'il ne s'agit ni d'une œuvre d'art, ni d'une sculpture.
Invité à préciser sa pensée, pourquoi, selon vous, cette pièce n'est pas une œuvre d'art, Aitken répond, je dirais qu'elle n'a aucune beauté. Poussé dans ses retranchements par un avocat de Brancusi, il ne peut que répéter encore et encore « Pour moi, ce n'est pas une œuvre d'art. » Quoi ? Il n'aime pas ? Et alors ? Est-ce un argument ? C'est même tout le contraire. Si on n'aime pas une œuvre, ou si elle ne nous émeut pas, c'est bien qu'il s'agit d'une œuvre d'art et pas d'un simple objet, disserte-t-on sur une machine à laver. Ensuite, arrive à la barre un certain Thomas Jones. Comme Aitken, il peut se prévaloir d'être très connu aux États-Unis. Il a réalisé nombre de statues et autres monuments pour le compte de l'armée. Comme Aitken, il affirme que l'oiseau n'est ni une sculpture, ni une œuvre d'art. Je ne crois pas qu'elle exprime le sentiment de la beauté. Elle est trop abstraite et constitue une perversion de la sculpture formelle. Alors évidemment, face à des arguments aussi bas de plafond, les artistes, témoins de Brancusi, proposent un discours d'une autre facture. Comme William Henry Fox, par exemple, le directeur du Brooklyn Museum of Art. À la question de savoir pourquoi il appelle l'oiseau œuvre d'art, il répond ceci.
D'abord, elle est expressive. Elle a une forme. Elle traduit une idée, probablement suggérée par le vol d'un oiseau. Une chose de cette nature est souvent inspirée à l'artiste par une idée abstraite qu'il exprime de manière originale. Je pense que c'est ce que cet artiste a fait. L'idée qu'il en avait quand il a commencé à y travailler a probablement évolué, et il l'a suivi. Il est probable qu'il a d'abord conçu son oiseau de manière réaliste.
Frank Crowninshield, rédacteur en chef de Vanity Fair, va dans le même sens. Cette pièce donne l'impression du vol. Elle suggère la grâce, l'élan, la vigueur alliée à la vitesse dans un esprit de force, de puissance, de beauté, comme l'oiseau, dit-il. Mais il juge in fine que la question de la ressemblance n'en est pas une. Le nom de cette œuvre, le titre en soi, ne veut pas dire grand-chose. Les plus grands sculpteurs ont donné à nombre de leurs réalisations des titres qui ne veulent rien dire. Ce qui nous intéresse, c'est l'œuvre. Il aurait pu tout aussi bien l'intituler « Esprit du vol ». Le titre ne modifie en rien la qualité esthétique de l'œuvre en tant qu'œuvre d'art, du moment que celle-ci réunit proportion, équilibre, ligne et témoigne d'un art accompli. En réponse, le juge Wade se fend d'une déclaration étonnante qui balaie les termes de la loi sur la nécessaire ressemblance d'une sculpture pour qu'elle relève de la catégorie œuvre d'art.
Tout cela importe peu. Nous sommes en train d'insister lourdement sur le fait qu'on l'appelle oiseau et je ne vois pas l'intérêt de savoir si c'est un oiseau. Tout le monde dit que c'est un oiseau parce que l'artiste l'a intitulé oiseau.
Récapitulons. À ce moment de la procédure, Brancusi est bien un sculpteur professionnel. L'oiseau qu'il a produit ressemble plus ou moins à un oiseau, mais ce n'est plus le problème. Non, l'important c'est qu'il s'agit d'une œuvre originale sortie de la main de l'artiste. La balance commence à pencher en faveur de l'artiste roumain. Mais, car il reste un mais, est-ce de l'art ? Depuis le début du XXe siècle, de nouveaux courants artistiques sont apparus, qui bousculent les certitudes et remettent en cause les ou la définition de l'art. Des œuvres qui interrogent, qui choquent. Champion toute catégorie de ce mouvement, Marcel Duchamp, inventeur du « ready-made », dont André Breton donnera la définition suivante « Objet usuel promu à la dignité d'objet d'art par le simple choix de l'artiste. » Duchamp crée son premier « ready-made » en 1913. Il s'agit d'une roue de bicyclette fixée sur un tabouret. Il relate ici, en 1960, la naissance de l'œuvre.
« J'avais chez moi une roue de bicyclette. Je pensais à un feu de bois. Et je pensais, quand on fait tourner cette roue de bicyclette, seul, ça rappelle un mouvement du feu de bois. Qu'est-ce que c'est l'agréable du feu de bois ? C'est ce mouvement du feu dans la cheminée. Et j'ai pensé que c'est moi qui n'avais pas de cheminée, de remplacer ma cheminée par une roue qui tourne. Donc j'ai mis ma roue sur un tabouret et que chaque fois que je passais, je la faisais tourner. C'est au fond le premier... dans ma vie, vraiment, l'idée m'est venue, mais sans que ça doive avoir une continuation quelconque. C'était une chose qui m'amusait.
Quatre ans plus tard, Duchamp fait sensation et crée le scandale avec une œuvre intitulée « Fontaine ». Rien d'autre qu'un urinoir posé à l'envers et signé Richard Mutt, qu'il propose lors de la première exposition des artistes indépendants de New York et qui est sans surprise refusé. Brancusi conçoit, taille, ponce, polit ses œuvres, qui n'ont rien d'utilitaire, qui ne servent à rien d'autre qu'à donner à voir, à donner à ressentir. Il s'inscrit comme précurseur de l'art moderne en sculpture, une façon de voir et de représenter les choses, non comme elles sont, mais comme l'artiste les voit. Ces représentations sont en réalité des interprétations. Mais avec l'oiseau, l'oiseau dans l'espace, selon son titre officiel, c'est la première fois que la justice est appelée à se prononcer sur cette nouvelle pratique artistique. Les enjeux sont de taille, note Céline Delaveau et Marie-Hélène Vigne dans l'ouvrage « Les procès de l'art ». Il s'agit de faire reconnaître devant la loi la légitimité de l'art abstrait, mais aussi de défendre la libre circulation des œuvres contemporaines. Les avocats de Brancusi ne manquent pas d'ailleurs de souligner ce point quand vient l'heure des plaidoiries.
En l'absence d'une exonération des droits de douane pour les œuvres d'art, nous limitons les occasions de pouvoir en jouir. Aucun profit ne devrait être tiré de l'art, de même qu'il n'en est tiré aucun des idées et de la pensée. Toutes ont titre à circuler librement parmi les nations de la Terre.
En face, du côté des avocats des douanes, pas de surprise. Il dénie à l'oiseau le qualificatif d'œuvre d'art. Ce terme, affirme-t-il, est réservé par la loi à cette catégorie des beaux-arts imitant les objets naturels tels que l'artiste les perçoit et dont la seule vue est capable d'engendrer l'émotion. Les avocats de Brancusi, eux, soulignent le traditionnalisme endurci et figé des témoins de la défense qui ne voient rien de bon dans le nouveau alors qu'ils trouvent tout bon dans l'ancien. Bref, une querelle classique entre les anciens et les modernes, les conservateurs et les révolutionnaires. Alors, à qui la justice donnera-t-elle raison? Le suspense est à son comble. Le 26 novembre 1928, le juge Waite rend son jugement. En voici un extrait.
Il nous apparaît que l'objet sur lequel nous devons statuer n'a d'autre fin que décorative, que sa finalité est la même que celle de n'importe quelle sculpture des maîtres anciens. Il est beau et de lignes symétriques, et en dépit d'une certaine difficulté à pouvoir l'assimiler à un oiseau, il n'en demeure pas moins agréable à regarder et d'une grande valeur ornementale. Et, considérant sur la foi des témoignages qu'il s'agit de la production originale d'un sculpteur professionnel, d'une sculpture et d'une œuvre d'art selon les experts mentionnés ci-dessus, nous recevons la plainte et jugeons que l'objet a titre à l'entrée en franchise.
Oui, l'oiseau, ou plutôt l'envol de l'oiseau, est une œuvre d'art. Oui, il peut entrer librement aux États-Unis et avec lui, l'art moderne. Oui, la justice dans cette affaire a été éclairée. C'est un oiseau, titre en cœur plusieurs journaux américains. Le procès a été très suivi. Maintenant, sur la question de la nécessaire ressemblance d'une sculpture avec son modèle établi par la jurisprudence de 1916, le juge fait preuve d'une belle ouverture d'esprit, prenant en compte le développement d'une école d'art moderne. Que nous soyons ou non en sympathie avec ces idées d'avant-garde, nous estimons que leur existence, comme leur influence sur le monde de l'art, sont des faits que les tribunaux reconnaissent et doivent prendre en compte. Voilà, le procès est clos. Mais l'affaire Brancusi contre les États-Unis d'Amérique demeure exceptionnelle. D'abord parce que les affaires judiciaires portant sur la nature même d'un objet ne sont pas légion. Ensuite, parce que celle-ci oppose un homme, un artiste, étranger de surcroît, au gouvernement du pays le plus puissant du monde et qu'il en sort vainqueur. Enfin, parce que la justice a été appelée à statuer sur l'art, sur le beau, qui n'est pas forcément son domaine d'excellence. Laissons à ce sujet la parole à la sociologue Nathalie Hennisch, spécialiste de l'art contemporain, ici, dans un article de la revue Droit et Société paru en 1996.
Ainsi, les nouvelles frontières de l'art se sont-elles trouvées en cette fin des années 1920, officiellement élargies de manière à intégrer les pratiques modernes et notamment l'abstraction. Que cet élargissement ait dû être légalisé par voie judiciaire et non pas seulement légitimé par l'opinion des experts, l'intérêt des collectionneurs et la politique d'achat des musées, en dit long sur le caractère profondément perturbateur de ces nouvelles pratiques artistiques.
Depuis, de nouvelles pratiques artistiques sont aussi venues nous secouer. Pour les apprécier, ou pas, laissons-nous guider par cette phrase de Brancusi. ce qui a vraiment un sens dans l'art, c'est la joie. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Ce que vous voyez vous rend heureux. Tout est là.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Brancusi contre les États-Unis. Notre invité, Arnaud Nebash. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur et illustrateur et vous avez publié en 2023 chez Dargo la bande dessinée Brancusi contre les États-Unis. D'abord, comment avez-vous découvert ce sujet? Pourquoi vous vous êtes dit cette histoire, j'ai envie de la raconter?
C'est une histoire que j'ai entendue lors de mes études début de, du 21e siècle, des années 2000, lors d'un cours de droit à l'Institut Saint-Luc de Bruxelles. L'enseignant s'est servi de cette anecdote pour introduire un cours sur la propriété intellectuelle. Et c'est resté dans ma tête assez longtemps, jusqu'à ce que je désire dessiner, en fait. C'est surtout venu de la gourmandise du dessin, de s'approprier le travail de Brancusi, de Fernand Léger et des interlocuteurs qu'il a pu avoir à cette époque-là.
Et il y a quelque chose d'assez héroïque dans la démarche de Brancusi, hein, c'est s'attaquer aux États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché? Parce qu'il y a, là-dedans, il y a une dimension romanesque.
Oui, évidemment, ça fait penser à David et Goliath.
Exactement. Hein.
Et puis, ce personnage, il est assez petit, il a tout de quelqu'un qui peut faire un héros de bande dessinée. Il est toujours habillé en blanc, il fabrique des choses gigantesques. Effectivement, il s'attaque au drapeau américain tout seul avec ses petites sculptures. Donc,
vous avez choisi de ne pas raconter que le procès, hein, mais aussi l'écho qu'il a en France, et vous alternez des scènes judiciaires new-yorkaises et des scènes de terrasses de bistrot où les artistes discutent entre eux de l'affaire, en écho. Vous vouliez dissocier les deux domaines, juridique, esthétique, c'est important?
Ben en fait, c'est là que ça a commencé à faire sens. C'est quand, parce qu'effectivement, si on prend les questions qui sont posées au procès, vous l'avez dit, elles peuvent paraître assez absurdes. Et puis, quand on les met un peu en écho aux problématiques qui sont soulevées par les artistes qui entourent Constantin Brancusi, donc il y a Fernand Léger, il y a Alexander Calder, et ce genre de personnages-là, quand on remet ces questions-là dans ce contexte-là, en fait, elles commencent à faire sens. Et donc, il était intéressant de jouer sur les deux tableaux et de parler à la fois de leur vie à Paris et du procès. Et puis, ça évitait aussi de fabriquer un récit trop bavard et trop lourd qui resterait dans la salle d'audience.
Et ça ouvre les yeux peut-être sur la perception de cet art moderne entre Américains et Européens. Il y a des contradictions, des différences d'approche?
Ben, je suis pas certain, parce que on est quand même à une époque où les œuvres circulent pas mal. Vous l'avez dit, l'art abstrait est déjà là depuis longtemps, voire l'art conceptuel avec les ready-made, etc., etc. Donc, en fait, j'ai l'impression que les deux pays sont prêts à dialoguer dans ce sens-là. Il y a juste une chose qui manque, c'est la loi qui est pas prête, elle.
Eh oui.
Donc, il faut remettre les choses à plat.
Vous êtes évidemment documenté pour votre livre. Est-ce que, selon vous, ce procès est un moment clé pour la circulation des œuvres d'art à travers les frontières, et notamment celle des États-Unis?
Bah, c'est surtout entre le vieux continent et les États-Unis. C'est là qu'il y a quelque chose qui se passe. On est donc entre 1926 et 1928. Le vieux continent s'apprête tout doucement à passer la main aux États-Unis, à rentrer en guerre, et beaucoup d'intellectuels européens vont se diriger vers les États-Unis. Donc il faut faire ce passage de relais et donner aux États-Unis la place qu'elles doivent prendre. Et j'avais l'impression, en racontant cette histoire-là, que ça pouvait faire sens et que cette analogie-là pouvait être visible.
Et qu'est-ce qui fait pencher la balance en faveur de Brancusi, selon vous?
J'ai l'impression que c'est le moment où on arrête d'essayer de faire le procès de l'art abstrait, justement, et où on admet que Brancusi n'est pas forcément un artiste abstrait, mais qu'il cherche à figurer une idée. Et là, à ce moment-là, le juge comprend qu'on s'en fiche que ce soit un oiseau ou autre chose. Et voilà, du coup, on parle vraiment d'autre chose. C'est pas la peine de savoir si c'est figuratif ou pas.
France Inter. Affaires sensibles.
Alors, je rappelle que vous êtes auteur, illustrateur et que vous avez publié en 2023 chez Dargo la bande dessinée intitulé « Brancusi contre les États-Unis », donc au cœur de notre sujet. Dans l'une des planches, vous évoquez la bêtise et l'immobilisme des Américains. C'est l'une des choses qui, justement, vous a frappé à la lecture de la documentation sur le sujet, parce que vous y allez fort, là.
Bah, ceux qui sont convoqués au procès, en tout cas, hein, parce qu'il y a évidemment des progressistes à cette époque.
Évidemment.
Voilà. Et il y a des ignorants de ce genre-là en Europe également, mais là, les deux camps se confrontent dans cette salle d'audience, donc effectivement. Et puis, c'est une manière de mettre en scène le regard que pouvait avoir Brancusi sur les gens qui l'empêchaient d'aller exposer aux États-Unis.
Alors, il faut dire aussi un mot d'un personnage nommé John Quinn, avocat et collectionneur réputé, qui a joué un grand rôle dans le fait qu'on ait pu voir les œuvres de Brancusi aux États-Unis. Vous nous racontez ?
Oui, il a joué un rôle assez important dans le premier quart du XXe siècle. Il était collectionneur et donc il a participé à rendre visibles les post-impressionnistes et les modernes aux États-Unis. Et il a beaucoup collectionné Brancusi. Et puis il arrivait à faciliter l'entrée des œuvres d'art aux États-Unis. Et puis il est mort un petit peu avant le procès. Et donc les artistes se sont retrouvés un petit peu orphelins. Et c'est là que s'est engouffrée la douane pour profiter de sa disparition.
Et au-delà de Brancusi, est-ce qu'un des personnages de cette affaire vous a particulièrement intrigué, intéressé, peut-être le juge White, finalement.
Oui, le juge White, évidemment, puisqu'il est, on voit qu'il est assez sensible dans ce qui est retranscrit dans les minutes du procès. Ford Watson, qui est le rédacteur en chef d'une revue d'art là-bas, et le juge s'appuie surtout sur ce témoignage, puisque justement, Ford Watson, il n'a pas envie de savoir si c'est un oiseau. D'ailleurs, il dit non, je ne vois pas un oiseau. Mais je vois l'envol d'un oiseau, je vois l'idée de l'oiseau, et c'est ce témoignage-là. Donc ce couple, le juge White et M. Watson, fabriquent quelque chose qui arrive à dénouer un peu l'histoire.
Alors, vous citez une phrase de Fernand Léger, qui dit à Brancusi, « L'industrie construit des objets d'une vraie beauté, et ce qu'un artiste peut faire aussi bien... » Alors, c'est un peu la question centrale du procès, hein, ou en tout cas l'un de ses enjeux.
Oui, ça m'a beaucoup intéressé, ça.
Oui.
La frontière entre l'artisanat, le design, l'industrie et l'art est de plus en plus poreuse. Les artistes s'appuient de plus en plus sur des compétences technologiques, techniques, et du coup, on a du mal à savoir là où s'arrête l'un et là où s'arrête l'autre. Ça, c'est très visible dans les écrits de Fernand Léger, c'est une question qui est beaucoup posée dans ses pensées, a priori, et ça m'intéressait de parler de ça, puisque la question est posée dans le procès. Est-ce que ça a été fait par Brancusi ? Est-ce qu'il a fait appel à un atelier pour fabriquer son oiseau ?
Alors, c'est assez éducatif ce genre d'histoire, parce que ça nous parle de l'art conceptuel et du blocage qu'ont beaucoup de gens qui se disent « bah oui, mais c'est pas concret, ça représente quoi ?» Donc, les encourager, leur dire « mais faites jouer l'émotion ». Le reste, on s'en fout, si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. C'est comme la danse contemporaine. Souvent, les chorégraphes nous font passer un message. Bon, si on ne le voit pas, peu importe. Ce qui importe, c'est la beauté des corps. C'est la beauté plastique de l'art plastique, justement, et de l'art humain, comme la danse. Il faut peut-être... pas éduquer les gens, c'est pas bien d'éduquer les gens, mais les encourager peut-être à aller dans cette voie-là.
Mais oui, justement, la bande dessinée se termine comme ça. Brancusi n'attend pas réellement la réponse du procès, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est la joie. Et donc, il s'assoit sur la plage et il empile des galets et il sculpte simplement la nature comme elle doit être. Et voilà, il n'a pas envie de tout conceptualiser et donner des leçons à tout le monde. Il a juste envie de jouer.
Vous êtes auteur, illustrateur, on l'a dit, est-ce qu'on peut voir dans votre BD une sorte de mise en abîme, c'est-à-dire une question que vous pouvez vous poser vous-même sur le statut de ce qu'est un artiste ou un artisan du 9e art, comme on définit la BD aujourd'hui ?
Alors moi, je me sens pas du tout artiste. J'utilise des techniques artistiques et sensibilité, mais au service d'une industrie qui est celle du livre. Et... Le livre est taxé, hein, aux frontières, donc quelque part ça répond un peu à la question. La comparaison, à mon sens, est pas possible.
Alors quand même, la BD, il y a un graphisme. Il y a des graphismes qui sont très figuratifs avec des lignes claires. Et puis il y a des graphismes qui nous renvoient à la façon dont le dessinateur, finalement, voit le monde. Il y a un certain parallèle quand même avec...
Bien sûr, c'est un métier d'art, mais au même titre que, je ne sais pas moi, oui, un designer ou quelqu'un qui fait de la marqueterie, quoi. Ouais.
Donc le principal dans cet art nouveau, qui n'est plus si nouveau que ça, c'est bien ça, c'est non pas voir le monde comme il l'est forcément, comme on le voit, mais comme l'artiste le voit. C'est ça peut-être l'effort à faire.
On a cette chose en commun qui est de proposer une vision du monde, effectivement. On a le droit de s'éloigner de la réalité et de proposer quelque chose, c'est vrai.
Nous avons parlé de Marcel Duchamp et c'est Ready Made, sans aucun doute, sa fontaine. Qu'est-ce que c'est connu, c'est célèbre, cette fontaine. Si elle avait dû passer la douane, vous pensez qu'elle aurait été taxée à 40%?
Bah, si ça avait été par le même douanier, il y a des chances en tout cas. Bon, après, c'était bien avant le procès et ça a été accepté aux États-Unis comme ailleurs. Il y a des choses peut-être même plus provocantes encore qui ont été acceptées à cette époque-là. Marcel Duchamp avait eu des difficultés avec le nu descendant l'escalier à la douane, me semble-t-il, pendant une autre exposition, l'Armorie Show, un peu plus tôt, en 1913, il me semble. Donc oui, et puis de toute façon, ce procès se rejoue assez régulièrement quand il a été question de gravures, de photos, de vidéos, puis de l'intelligence artificielle aujourd'hui. À chaque fois, il faut re-questionner la définition de l'art, mais c'est plutôt sain, quoi, de repousser un peu les limites assez régulièrement.
Qui sont les artistes, ce sera ma dernière question conceptuelle, qui vous intéressent aujourd'hui, qui vous ont intéressé avant, de qui vous sentez-vous le plus proche? Quelles sont vos émotions par rapport à certains?
Je suis assez proche de ce début de siècle.
Florissant là-dessus.
Ben oui, évidemment, tout donne envie d'être raconté dans ce début de siècle. Et voilà, je me sens assez proche des peintres comme Cézanne ou Bonnard, par exemple.
Merci Arnaud Nebache.
Je
rappelle votre BD chez Dargaud, intitulée La bande dessinée Brancusi contre les États-Unis. Merci d'être venu nous voir et de nous avoir apporté vos éclairages de spécialistes.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Brancusi, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmas.